Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique.
Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power 19, on va l'appeler Soft Power 19 désormais, le magazine des industries culturelles et du numérique au temps du coronavirus, émission spéciale sur les conséquences économiques du fait de cette épidémie de Covid-19 sur la culture. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, la culture et les industries créatives ont été affectées aussi durement, aussi profondément que depuis l'entrée en confinement de notre pays le 17 mars dernier. Tous nos théâtres, nos opéras, tous nos orchestres, nos ballets, la plupart encore de nos grands musées sont fermés. Les concerts n'ont plus lieu, ni classique, ni jazz, ni rock, petite jauge comme grand stadium. Même pendant la guerre, les librairies n'avaient pas baissé le rideau. Les tournées de musiciens sont annulées partout, car ce mouvement inédit est un mouvement global. Il concerne presque tous les pays du monde. Alors si on nous avait annoncé il y a quelques semaines une telle situation, personne, mais vraiment personne n'y aurait cru, à moins de parler d'une série télé dystopique entre Tchernobyl sur HBO et OCS ou Sense8 sur Netflix. Il y a des milliers de consultants, des cabinets comme McKinsey, Roland Berger, Boston Consulting Group, Capgemini, Accenture, Deloitte Conseil, je pourrais en citer d'autres, qui sont payés des fortunes à fort cher pour prévoir le futur. Eh bien personne, dans la prospective, n'avait vu venir cette crise. Et pourtant nous y sommes. La culture est à l'arrêt, la culture live s'est arrêtée au temps du coronavirus. Alors jusqu'à cet été, chaque dimanche, dans Soft Power qui recommence en direct, nous allons nous consacrer aux conséquences de cette épidémie sur les milieux de la culture, mais aussi, en essayant d'être un peu plus optimiste, aux mutations culturelles en cours, aux nouvelles pratiques et aux usages. Soft Power 19, ce sera tous les dimanches de 18h10 à 19h30 jusqu'à cet été. Au sommaire de cette émission ce soir, nous évoquerons quatre thématiques principales: politique culturelle, le numérique, les médias et les industries culturelles. Nous serons avec nos chroniqueurs fidèles au rendez-vous, Zoé Sfès de France Culture, Michel Guérin, rédacteur en chef au Monde, Emmanuel Paquette de L'Express et Sandrine Cassini également au Monde. On sera également avec notre invité, Henri Verdier, ambassadeur de France chargé du numérique, et en première partie, Jean-Noël Tron, le PDG de la SACEM, pour évoquer la politique culturelle, les industries culturelles, notamment la musique, au temps du coronavirus. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power 19, ce dimanche, dans ce format spécial jusqu'à l'été. Un mot pour vous préciser que nous avons été autorisés à faire cette émission en direct ce soir avec un protocole sanitaire particulier, un peu drastique, et que donc l'ensemble de nos chroniqueurs, l'équipe qui a préparé cette émission et les invités restent chez eux et nous rejoindront par téléphone, par Skype ou par liaison numérique spéciale. L'émission est réalisée ce soir par Perret Legras avec en régie Jacques Azubert. Merci à tous les deux pour votre présence à mes côtés en studio. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata. Vous pouvez la suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast comme chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power spécial Covid-19 jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. Jean-Noël Tron est le PDG de la SACEM, en première ligne pour soutenir les musiciens en France et en direct par liaison numérique. Bonsoir Jean-Noël Tron.
Bonsoir Frédéric.
Alors commençons pour bien voir ce dont on parle quantitativement en termes d'évaluation et de chiffrage par une évaluation du poids de la culture et des industries culturelles. Le think tank France Créative, dont vous êtes également le président, a mis à jour son étude qui montrait que le poids de la culture était en gros en France de 100 milliards d'euros et 1,3 million d'emplois sont concernés. On en est où, Jean-Noël Tron, en termes de pertes économiques ?
Alors c'est plus un mouvement qu'un think tank, hein, France Créative. On l'avait lancé en 2012 en partant du constat que la culture, c'est d'abord ce que nous savons, c'est-à-dire l'âme du pays, mais que c'est aussi une source de revenus et de création de richesses pour le pays. On s'est appuyé sur un autre de ces cabinets que vous citiez, qui est Ernst & Young, qui s'appelle maintenant EY. Et la toute dernière étude de France Créative avait été rendue publique au moment du lancement des États généraux de la culture en décembre, avec Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian et Franck Riester, donc avec les trois ministres, disons, principalement investis sur le sujet des industries culturelles et créatives, comme on les appelle. EY vient de nous donner des premiers chiffres de chiffrage. L'estimation de perte de revenus pour la période du confinement, c'est-à-dire simplement avril et mai, c'est autour de 10 milliards d'euros, auxquels il faudrait rajouter probablement une vingtaine de milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année. Sachant qu'il faut préciser deux choses. D'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, les conditions du déconfinement vont être particulièrement difficiles pour une partie des secteurs culturels, que ce soit le spectacle vivant ou que ce soit les salles de cinéma qui sont pas prêtes de réouvrir. Certains des festivals sont annulés et beaucoup de tournées ne reprendront que début 2021. Et puis il y a un deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que pour une partie des acteurs de la culture, et notamment les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique, mais aussi les artistes ou les producteurs pour leurs droits voisins, c'est une double lame, c'est-à-dire que le cœur des pertes vont être en 2021, et ça n'est pas compté dans ce chiffrage. Pourquoi 2021 ? Parce que les revenus en droit d'auteur sont souvent payés avec un décalage par les utilisateurs. C'est un peu le paradoxe que ceux qui sont les premiers à agir, les créateurs, sont les derniers à être payés. Et donc, c'est des pertes en 2021. Deuxième sujet, peut-être pour illustrer le questionnement que vous relancez en même temps que l'émission redémarre, c'est que les ICC françaises, le secteur de la culture en général...
Industrie culturelle et créative.
Et créative, bon, c'est le terme générique qu'emploie la Commission européenne. Moi, je préfère parler d'économie de la culture, parce que dans ces chiffres de pertes, on a aussi bien la perte en billetterie sur un musée, qui est un établissement public, que les pertes en droit d'auteur gérées par une société privée à but non lucratif comme la SACEM, ou les pertes d'un libraire, ou les pertes d'un producteur de films, ou d'un exploitant de salle de cinéma. Mais il y a un autre point qu'il faut qu'on ait quand même tous en tête, c'est que cette crise révèle l'extrême fragilité de ces secteurs, et en même temps va permettre de rappeler leur force pour le pays. Ce sont des secteurs qui sont très fortement contributeurs en emploi pour la jeunesse. Les emplois des moins de 30 ans dans ces secteurs, c'est près de 23% contre un peu moins de 19% pour la population active française. Ce sont des emplois qui sont peu délocalisables, qui ont un rôle absolument essentiel pour l'aménagement des territoires. Et puis surtout, c'est un secteur absolument vital pour le rayonnement, pour l'attractivité de notre pays. On sait qu'une partie de l'industrie touristique, mais aussi des secteurs de l'hôtellerie ou de la restauration, dépendent de l'activité, par exemple, des festivals. Pour des régions comme PACA, qui est la première région festivalière de France, c'est tout simplement vital. Donc, c'est tout ça qui est en jeu. Et puis, dernier point, c'est quand même un modèle. C'est un modèle qui porte le vivre ensemble, qui porte des valeurs absolument vitales pour notre société. Et ces valeurs, on va en avoir d'autant plus besoin dans la crise absolument terrible que traverse notre pays et qui n'est pas finie.
Une culture locale et aussi tout un écosystème qui va des traducteurs, évidemment des restaurants, vous l'avez dit, des hôtels, mais aussi dans une ville comme Avignon, Aix, Montpellier, Orange pour le festival. C'est des centaines de petites sociétés qui fournissaient qui les décors, qui montaient tout simplement les scènes, la sono, les traductions, etc. Donc des milliers de sociétés. Il y a une dizaine de jours, un plan Macron-Riester pour la culture a été annoncé par le président de la République. Il concerne l'année blanche pour les intermittents et le chômage partiel, les aides au festival, une dotation de 50 millions d'euros pour le tout jeune Conseil national de la musique. Qu'en avez-vous pensé, Jean-Noël Tron? Je rappelle que vous êtes le PDG de la SACEM.
Le DG, le président est renouvelé chaque année par notre conseil d'administration. Ça peut être un auteur, un compositeur de musique. Cette année, c'est un éditeur de musique.
Alors, votre avis sur le plan Macron-Riester?
Écoutez, c'est une réponse au plus haut niveau de l'État. Elle était fortement attendue et donc elle est bienvenue. Il y avait des mesures générales, comme le chômage partiel ou les prêts garantis par l'État, qui sont importants parce qu'ils répondent à des problèmes immédiats de trésorerie pour beaucoup d'entreprises de la culture. Il fallait des mesures d'urgence spécifiques, vous en avez cité certaines. Je pense que ce qui a été dit sur l'intermittence, sur l'éligibilité des artistes-auteurs au fonds pour les TPE ou sur l'abondement de 50 millions d'euros pour le CNM sont des mesures bienvenues. C'est d'ailleurs la première fois que le chef de l'État s'exprime sur ce nouvel établissement public, le Centre National de la Musique, que notre filière attend depuis quand même 30 ans. Ceci dit, il y a quand même des choses floues, il y a un problème d'intendance, et puis la vraie question n'est pas simplement ce qu'on fait tout de suite, c'est surtout ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Parmi les choses floues, le président de la République a annoncé 4 mois d'exonération de cotisations sociales pour les auteurs, mais sans dire lesquelles. Et puis de toute façon, être exonéré de cotisations sur des revenus qui n'existent plus à cause du Covid, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc il va falloir réfléchir, pour 2021 notamment, à comment on peut compenser vraiment au moins une partie des pertes catastrophiques en droit d'auteur. Et je dirais que le plus énervant, c'est quand même l'intendance qui ne suit pas, comme aurait dit le général de Gaulle, parce que la décision sur l'extension du fonds de soutien pour les TPE aux indépendants et aux artistes-auteurs, elle date d'avril. Ça fait 1 mois qu'un formulaire remplissable sur Internet doit être adapté par le ministère du Travail, ça n'est toujours pas fait. Et c'est la même chose pour le remboursement de trop payés à l'URSSAF pour les auteurs. Ça concerne quand même, de par le régime fiscal, à peu près 90% des auteurs de la musique, mais aussi beaucoup dans le livre, dans le cinéma ou dans l'audiovisuel. L'URSSAF devait mettre une plateforme Internet en place en janvier 2020, pour des montants qui datent de 2018, on attend toujours. Bon, nous, à l'ASSM, ça nous a pris quand même juste 8 jours pour adapter notre portail Internet entre le moment de décision de notre conseil d'administration fin mars de lancer un plan de mesures d'urgence pour nos membres et le moment où nos membres ont pu déposer leur demande. Donc, il y a un vrai souci sur l'exécution, et le ministère de la Culture en est parfaitement conscient, il se bat d'ailleurs à nos côtés là-dessus. Mais surtout, je voudrais y revenir, ce qui compte, c'est l'ensuite. Et là, si on a, comme on le craint tous, 30 milliards d'euros de pertes rien que pour 2020, ce qu'il va falloir, c'est un plan Marshall pour les industries culturelles, et notamment pour certaines filières plus touchées que d'autres, comme le spectacle vivant, ou certains métiers plus dévastés que d'autres, comme le métier des auteurs ou des compositeurs et des éditeurs de musique. Et quand je parle de ce chiffrage-là, c'est quand même juste l'avenir dans une stratégie de relance qu'il faudra penser à 3 ou 5 ans, et pas simplement pour l'année 2020. C'est d'ailleurs pourquoi France Créative réfléchit à la fois à faire des annonces avant l'été, à avoir aussi une démarche de relance européenne. Je vais vous donner un dernier chiffre, quand même pour montrer ce que c'est que l'ampleur des pertes. Pour nos membres, l'une des sources importantes d'utilisation de leurs œuvres, ce sont les commerces. Bon, les commerces ont été totalement fermés pendant 2 mois. Et bien sûr, la SACEM, de manière solidaire, a suspendu tout paiement demandé aux commerçants.
Vous voulez dire, par exemple, quand il y a de la musique chez un coiffeur ou dans un hypermarché, ça paye des droits, SACEM.
Exactement, ça paye des droits d'auteur et ça rémunère les gens qui font la musique, qui nous permet que ce soit plus agréable de faire nos courses ou de nous faire couper les cheveux en musique. Nous estimons que pour ce qui concerne l'ensemble de ces droits, c'est probablement autour de 50% de pertes pour cette année, et les droits qui sont liés au spectacle vivant, c'est 70%. Donc, en 2021, nos premières estimations, c'est une perte nette des prélèvements que nous faisons sur les droits que nous versons à nos membres, puisque nous sommes à but non lucratif, donc la SACEM n'est financée que par ses membres, et donc la société elle-même va subir un très fort déficit, peut-être d'un quart de son compte de gestion, mais nous estimons que déduction faite des droits, c'est 200 millions d'euros de financement en moins pour la filière créative française. La plupart de nos membres, c'est à peu près, pour vous donner un autre chiffre, 90 000 auteurs, compositeurs ou éditeurs de musique à qui la SACEM verse leurs droits chaque trimestre. La plupart de nos membres sont français ou francophones, que ce soit des artistes et des éditeurs du...
Donc ça va avoir un impact très fort sur la culture française. Juste un mot, c'est un dossier très technique et évidemment très complexe, on y reviendra peut-être dans d'autres émissions, on va pas le traiter là, mais il y a la question des assurances. Est-ce que les assurances vont rembourser dans certains cas? Il y a une bataille en cours très forte aujourd'hui entre Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et un certain nombre d'assurances, je pense à AXA, Allianz, qui refuse d'indemniser, alors bien sûr les restaurateurs, les cafés, mais c'est vrai aussi pour tout un tas de lieux culturels, avec d'autres banques ou d'autres compagnies d'assurance, je pense au Crédit Mutuel, qui ont fait des gestes. Comment voyez-vous ce dossier brièvement ?
Mais j'en parlais encore ce matin avec des partenaires France Créative de la filière française et jeudi soir avec nos partenaires américains, les guildes de scénaristes et de réalisateurs et les producteurs dont nous connectons une partie des droits en France. Et nos amis américains, comme mes partenaires français, me disaient la même chose. Vous pouvez pas vous lancer dans un tournage d'un film avec un budget qui va être de 10 ou 15 millions d'euros, ou même de moins, si le réalisateur ou un des acteurs importants risquant d'être touché par le Covid, vous vous retrouvez à devoir annuler au bout de 4 semaines de tournage, sans en tout cas que la question de l'assurance a été réglée. Voilà typiquement le genre de sujet sur lesquels non seulement France Créative va se mobiliser, mais qu'il faut peut-être à un moment traiter au niveau européen. Peut-être faut-il un règlement d'application immédiate qui pose des obligations claires aux acteurs et qui, au-delà des initiatives qui ont pu être prises par certains, responsabilise les assureurs. Sinon, il ne peut pas y avoir de reprise d'une partie de la création et on arrive à un moment assez proche de pénurie possible de programmes et de création, y compris pour les diffuseurs français et pour le réseau de salles de cinéma. Hein.
Surtout quand on a vu aussi que, par exemple, une société comme AXA proposait malgré tout de donner à ses actionnaires plus de 3-4 milliards d'euros à l'automne. Alors, ils ont un peu repoussé la mise en place de cette rémunération des actionnaires, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Vous avez évoqué l'Europe. Mardi matin, les ministres de la Culture vont se réunir en visioconférence, je crois, à Bruxelles. Vous avez Jean-Noël Tran publié un ouvrage il y a quelques mois intitulé « Et si on recommençait par la culture ?» Un plaidoyer pour la souveraineté européenne, c'est publié au Seuil. Que pourrait faire ou que peut faire l'Europe dans ce contexte et dans ce dossier ?
Alors, l'Europe, par la voix de son Parlement européen, un projet de plan de relance. Et le Parlement européen, vendredi matin, a demandé 2 000 milliards d'euros. Ce plan de relance qui est rapporté aux 14-15 000 milliards, disons, en gros, du PIB de l'Union après le Brexit, est peut-être juste à la hauteur. Et pour être là aussi tout aussi concret, la commissaire européenne Maria Gabriel, qui est en charge de l'éducation et de la culture, avec qui je m'entretenais vendredi, organise ce mardi, le 19 mai, une réunion des ministres de la culture. Bon, il me semble que l'Europe joue son avenir à ce moment très précis, que l'euroscepticisme aujourd'hui est peut-être, hélas, juste le sentiment des Européens adultes et responsables qui voient bien que, pour une part, la machine bruxelloise ne marche pas, que d'ailleurs, pour ce qui est de la culture, comme j'ai essayé de le dire dans mon livre, nous avons depuis, en tout cas pour ma part, depuis 7 ans, mené essentiellement des combats défensifs face à des initiatives de la Commission qui étaient plutôt hostiles aux intérêts des secteurs culturels et qu'il est temps de regarder les choses en face. L'ouverture totale du marché culturel européen au reste du monde, elle n'est absolument pas réciproque. Les États-Unis sont toujours prêts à attaquer l'exception culturelle, mais enfin, en réalité, leur marché est le plus cadenassé qui soit en matière culturelle, que ce soit pour les salles de cinéma, les libraires ou les salles de spectacle ou les radios locales américaines où il y a 95% de répertoire américain qui est diffusé. Donc, comme je le dénonçais dans mon livre, le budget total de la Commission européenne, enfin le budget total de l'Union pour la culture, hein, c'est 1 millième. C'est 0,001%, moins de 200 millions par an. Et donc, si on a un plan de relance de 2 000 milliards d'euros, bah, il faut peut-être un 1% culturel, ça ferait 20 milliards. Et j'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que nous, les acteurs privés, la casse va être colossale. Nous allons tous faire ce que nous pouvons. À la SACEM, nous avons mis en place tout un ensemble de mesures d'urgence et de premiers secours pour nos membres que nous finançons nous-mêmes. Nous ne coûtons pas 1 euro.
Plus de 2000 dossiers ont été déposés, c'est ça, parmi
vous ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place un dispositif qui mêle à la fois des avances exceptionnelles, donc des avances avec une année et demie blanche, c'est-à-dire pas de remboursement.
Pour des auteurs, compositeurs en difficulté, par exemple,
oui,
ou des éditeurs de musique.
Oui, alors à la SACEM, on n'a pas que des musiciens. Hein, les auteurs de doublage ou titrage sont membres de la SACEM. C'est tout à fait des auteurs de l'audiovisuel et du cinéma, pas du tout de la musique. Donc on a mis en place un moratoire pour ces remboursements d'avance exceptionnelle. Et puis le remboursement sera étalé sur 5 ans. On a mis des aides entre 350 et 5000 euros. Le plan d'aide total, c'est 43 millions d'euros. C'est colossal. Mais ça, c'est l'argent des auteurs.
Un mot sur le hashtag scène française pour terminer, Jean-Noël Tran. Au moment où un certain nombre d'acteurs seront peut-être moins présents sur le hertzien en télévision, en matière de télévision.
Oui, notre idée, elle est simple. Hein, c'est que chacun fait ses efforts. Nous avons aussi mis en place, d'ailleurs, je voulais juste quand même en dire un mot, un plan d'économie massif sur toutes nos charges, y compris avec du chômage partiel qui va faire perdre une partie de leur salaire, une bonne partie de nos salariés, y compris l'équipe dirigeante. Et c'est normal, on se bat pour essayer de limiter la casse pour nos membres. Mais tout le monde peut s'y mettre. Et donc le hashtag scène française, il part d'un constat extrêmement simple. C'est que demain, ça fera une semaine que le déconfinement a commencé, mais pour beaucoup de salles de cinéma ou de cinéma, c'est pas pour demain le déconfinement. Hein. C'est un peu comme le chapelier fou de Lewis Carroll qui fêtait tous les jours son non-anniversaire. Nous, c'est tous les jours le non-déconfinement et ça va durer pendant des semaines ou des mois. Donc, hashtag scène française, c'est une action de responsabilité collective. Radio France a d'ailleurs été le premier média à embarquer. Beaucoup de festivals, beaucoup de partenaires le font. Et l'idée, c'est quand même de dire, si vous diffusez plus d'œuvres de la création française, nous, on pourra mieux rémunérer les créateurs français. Je vais juste vous donner un chiffre qui est quand même frappant. Hein. Il y a un système mondial de droits d'auteur. Et donc nous collectons en France aussi des droits qui correspondent à d'autres répertoires. Même si le répertoire de la SACEM, qui est francophone, est le deuxième du monde, il est loin derrière l'anglo-saxon. Nous envoyons chaque année à nos deux sociétés sœurs américaines, ASCAP et BMI, quasiment 50 millions d'euros, et elles nous envoient un peu moins de 7 millions d'euros. C'est en gros la part réciproque de ce qui est diffusé dans chaque pays en termes de répertoire de l'autre. Eh bien, si les médias français, sans qu'il leur coûte un euro de plus, passent plus de production française, ça fera un petit peu moins de casse de leurs revenus pour les créateurs français, mais aussi pour les artistes interprètes, pour les producteurs, pour les éditeurs de musique l'an prochain. Ça, c'est la responsabilité collective à laquelle nous appelons.
Merci infiniment Jean-Noël Tran d'avoir été avec nous par liaison numérique. Le hashtag c'est Scène Française. Jean-Noël Tran qui est directeur général de la SACEM. Avec nous maintenant par téléphone, Zoé Sfez, chroniqueuse, journaliste de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Bonsoir Zoé qui nous rejoint, heureux de vous retrouver, infus par liaison numérique, fin du confinement. Comment est-ce que vous l'avez vécu au passage et qu'est-ce que vous avez remarqué Zoé durant cette période, notamment sur les réseaux sociaux?
Sur les réseaux et sur les échanges de produits culturels qu'évoquait tout à l'heure Jean-Noël Tron, mais je voulais quand même commencer par effectivement une note plutôt positive et une remarque sur les réseaux. On a passé, elle n'est pas tout à fait terminée, cette période de confinement, alors qu'il nous a vu découvrir, on en a beaucoup parlé je crois, dans à peu près tous les médias, tout un certain nombre d'applications, donc Reportit, c'est celle que j'utilise en ce moment pour vous parler, Zoom, Houseparty, des applications qu'on connaissait quasiment pas du tout, ou alors très mal à bien des égards avant ce confinement, et qui nous ont à peu près tous, je pense, aidés à nous sentir proches, particulièrement quand on était confinés seuls, même si, et on y reviendra sans doute plus tard dans cette émission avec Emmanuel Paquette, on a découvert à quel point elles sont peu regardantes sur la gestion assez approximative, voire parfois carrément abusive, de nos données personnelles, donc on a eu cette sensation d'être à la fois libérés mais aussi piégés par ces applications à qui on a offert notre intimité finalement, plus que jamais. Mais quand même, ça va peut-être vous surprendre puisque vous le savez, je suis souvent technocritique ici, Frédéric Martel, il convient aussi d'observer un peu ce qui s'est passé de beau, d'intéressant sur les réseaux et notamment sur ceux qu'on fréquentait déjà avant le confinement, particulièrement Instagram, Facebook et puis Twitter, ces réseaux qui, on en avait parfois l'impression, n'avaient plus grand-chose de sociaux. Bruno Patino qu'on avait reçu pour son livre La civilisation du poisson rouge ou encore l'ancien ingénieur de Google, Tristan Harris, qui a claqué la porte de la firme américaine, nous l'avait tous les deux expliqué dans cette émission, s'attend souvent à leur modèle économique, à ses réseaux, puisque Facebook et Instagram, c'est avant tout des grandes régies publicitaires. Ils reposent entièrement sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, donc nous garder captifs le plus longtemps possible pour obtenir de nous le maximum de données et puis pour nous vendre le maximum de produits. Et puis là, il n'était plus si utile de nous garder en ligne. Souvent, pour nous garder en ligne, ces réseaux mettent en valeur des contenus, c'est ce qu'on utilise comme terme, qui vont capter notre attention, nous rendre envieux, susciter en nous ce qu'on appelle souvent le FOMO, c'est un terme anglais, fear of missing out, cette sensation qu'on connaît tous, que les autres, ceux qui sont sur les réseaux, vivent une meilleure vie que nous, qu'ils partent en vacances, qu'ils réussissent mieux leur challenge. Et bien, j'ai l'impression qu'en étant confiné solitaire, il s'est passé quelque chose d'assez différent. Pendant ce confinement, d'une part, on le sait, et on va y revenir, parce que les annonceurs ont drastiquement réduit la publicité. Alors partout, y compris en ligne, puisque le baromètre unifié du marché publicitaire, le Bump, a publié ce vendredi des chiffres qui nous disent que pendant la période du confinement, les investissements des annonceurs sur Internet ont diminué de moitié, et ça c'est vraiment vu, notamment sur les réseaux. Donc il n'y avait plus cette espèce de course à l'échalote pour nous vendre des produits. De la même manière, les influenceurs qui alimentent notre fil avec justement cette fameuse fear of missing out en diffusant des contenus souvent très consuméristes, un peu jeunistes, d'une vie qu'on ne peut pas vivre, ils n'avaient plus grand-chose à raconter, soit eh bien qu'ils ne pouvaient plus partir en vacances, soit eh bien que les contenus qu'ils nous proposaient apparaissaient soudain assez dénués de sens. Ils nous ont en quelque sorte laissé la place finalement, et on l'a prise, puisque on le sait, deux semaines après le début du confinement, le volume des messages échangés sur Facebook avait plus que doublé, c'est ce que nous ont expliqué Alex Schultz et Jay Parikh, les deux vice-présidents de Facebook. Facebook. Twitter, en 2 semaines de lockdown en France, avait gagné 12 millions de nouveaux internautes. Et puis surtout, le contenu de nos messages ont changé. Alors on avait une recherche par mot-clé, une analyse de certains politologues qui ont montré que l'essentiel des échanges pendant ce confinement, eh bien, ils commentaient évidemment la crise du Covid, mais ils relevaient beaucoup de la solidarité et surtout, on l'a dit, de l'échange de biens culturels. Puis le ton, surtout, avait changé. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt Laurence Allard, elle est maîtresse de conférences en sciences de la communication à Paris 3 et à Lille 3. Elle a beaucoup écrit sur les réseaux, sur le selfie. Et elle nous explique que finalement, libérée de cette injonction qui pèse souvent sur nous, en temps normal, de montrer que nous sommes productifs, eh bien, nous avons fait des réseaux une sorte de carte de nos territoires intimes. La particularité, c'est ce qu'elle expliquait dans une interview à 20 minutes, c'est que dans ce temps de crise, chaque individu, placé de manière très homogène face à une crise partagée par tous, s'adresse aux autres non pas pour se mettre en valeur, mais pour humblement solliciter un lien, conforter un lien. Ce sont des adresses assez authentiques. Et puis effectivement, et ça on l'a dit, ce sont essentiellement des produits culturels qu'on a échangés, des chaînes de livres, des chaînes de podcasts, des conseils de cuisine. Il y avait aussi une grande impudeur. Soudain, on découvrait que son collègue chantait des chansons ou écrivait des poèmes. Et puis comme tout le monde disposait à peu près des mêmes moyens pour se mettre en valeur, notre collègue et Benjamin Biolay au Raphaël, deux chanteurs qu'on a beaucoup vus actifs dans leur cuisine pendant ce confinement, et on a l'impression que cette crise a restitué chacun à sa juste place, avec un moi numérique qui correspond un peu plus à ce qu'il est réellement. Alors, on voit bien déjà que les choses semblent rentrer dans l'ordre avec ce déconfinement et une réapparition progressive de la publicité. On pourrait le regretter, mais, et ça il est important de le dire, cette gratuité dans les échanges, cette gratuité surtout dans l'échange des produits culturels, eh bien en fait, d'une certaine manière, il faut qu'on se réjouisse qu'elle se termine en réalité.
Alors on a vu justement émerger une importante offre culturelle gratuite en ligne. Ce confinement de la gratuité dans l'art, et qui est aussi une déperdition de la valeur, comment est-ce que vous l'analysez justement, Zoé Sfèze, rapidement?
Bah effectivement, c'est une tension et c'est une interrogation, je pense, qui va continuer à se poser, d'autant que la crise, on l'a entendu avec Jean-Noël Tron, elle risque de s'étaler dans le temps. Et puis on revient quand même à une question cruciale qui existe à la fois dans les industries, mais surtout dans la politique culturelle, dans la question de la démocratisation. Alors on l'a vu, on va pas la lister parce que le site de France Culture a vraiment fait ce travail de curation pendant ce confinement, de toutes les initiatives culturelles gratuites qui ont émergé sur le web. Alors elles émergeaient parfois d'artistes même, hein, il y a eu des très grands concerts, vous les avez relayés vous-même, Frédéric Martel, des Instagram Clash, des concerts parfois très très chiadés, hein, notamment ceux d'Erika Badou, que je vous conseille d'aller voir, des cinéastes qui ont décidé parfois à titre personnel de mettre leur film en libre accès. C'est par exemple ce qu'a fait le cinéaste irakien Abbas Fadel avec sa trilogie Homeland d'Irak Zéro, qui est assez difficile à voir. Il y a eu évidemment les grandes institutions qui ont fait ce travail, l'Opéra de Paris, on en a souvent parlé, avec une offre exceptionnelle d'opéra, de ballet consultable en libre gratuitement, la Comédie française, avec des œuvres qui étaient visibles à la fois à la télévision et sur le web, avec un site dédié extrêmement riche. Et puis la firme MK2, par exemple, et ça c'est intéressant, c'est cinéma, les deux fils de Marin Carmitte, qui ont rendu disponible toute une série de films, alors à la fois des films d'auteur et puis des courts-métrages, certains très rares, sur une initiative qui s'appelait MK2 Curiosity. Voilà, le Met de New York, l'Opéra, qui a mis en ligne chaque soir un opéra de son catalogue, alors certains qu'on n'avait pas vu du tout, hein, puisqu'il y a des captations de très très bonne tenue. Et dans le même temps, le Met de New York annonçait, eh bien, que sa saison était terminée et que les membres permanents de l'orchestre et du chœur de la compagnie, eh bien, ne seraient plus payés de mars à au moins septembre. Et là, on voit un petit peu le paradoxe de cette question de la gratuité. Très vite, en réalité, mi-avril, il y a un organisme qu'on connaît pas forcément, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui a lancé un cri d'alerte en expliquant, eh bien, que cette gratuité des livres, des films qui s'étaient répandus pendant la pandémie, avec une espèce d'entorse au droit de la propriété intellectuelle, était un gros danger pour un secteur qui, on l'a entendu, bien sûr, était déjà fragile. Et ce, alors qu'en plus, ironie du sort, eh bien, en plein milieu du confinement, est entré en vigueur un traité baptisé le traité de Pékin, qui a été signé en 2012, mais qui n'a pu, pour des raisons logistiques, n'entrer en vigueur qu'en avril 2020. qui prévoit la mise en place de nouveaux droits liés à la retransmission et la reproduction des œuvres audiovisuelles. Et alors Francis Gurie, le patron de l'OMPI, s'inquiète en fait de ces exceptions à la propriété intellectuelle qui ont vu le jour pendant le confinement, sans souvent qu'on en discute avec les artistes la plupart du temps. Pour casser un droit d'auteur, a-t-il dit dans un communiqué qui a été très relayé, il faut démontrer qu'il y a un besoin spécial. Or, et il sait qu'il est polémique quand il écrit ça, dans le cas actuel, je ne vois pas forcément l'évidence d'un problème d'accès au contenu. Car c'est un petit peu tout le paradoxe de cette crise du Covid, elle intervient alors qu'il n'a probablement jamais été aussi facile dans l'histoire de l'art d'acheter des livres, des films, des œuvres en ligne, avec notamment une offre de streaming absolument incomparable. On le sait, on en parle très souvent. Alors ça paraît contre-intuitif, mais on le sait, la gratuité, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe, c'est un ennemi de la culture. On l'a vu avec plusieurs études au cours de l'histoire, plus l'offre gratuite est large, plus il sera potentiellement difficile ensuite de faire payer les gens pour un contenu dont ils ont disposé gratuitement. On est évidemment dans une situation exceptionnelle avec des contenus qu'on ne peut pas appréhender physiquement, mais néanmoins, c'est un débat vieux comme le monde. Quand l'heure des concerts sera revenue, il faudra à nouveau qu'ils soient payants. La question de maintenir ces dispositifs, alors qu'on sait que cette crise elle va pouvoir durer, on sait que par exemple les concerts, les cinémas, ça va être très compliqué, est une question qui doit se poser. On sait que la plupart des dispositifs que j'ai cités plus haut, l'Opéra de Paris, MK2, etc., ont pris fin avec le déconfinement annoncé. On pourrait en être triste, mais il faudrait au contraire s'en réjouir.
Gratuité, là, limite de la gratuité, voilà. dans l'art. Merci infiniment Zoé Sez, journaliste à France Culture. Soft Power, c'est jusqu'à 19h30 en direct.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Deuxième séquence de cette émission. Après les industries culturelles, la politique culturelle, le confinement et la crise actuelle sont l'occasion de faire des propositions ou d'imaginer le monde d'après. Alors d'ailleurs, sur France Culture, on s'est également intéressé au monde d'avant. Nous avons publié, par exemple, tout récemment, une longue histoire de l'agence culturelle Federal One de Roosevelt entre 1933 et 41. Agence qui a permis de sauver pour partie les artistes américains après la grande crise, la grande dépression de 1929. Dans le cadre du New Deal, Roosevelt a fait en sorte que les artistes soient salariés massivement par l'État, qu'on crée des pièces de théâtre dans les zones les plus reculées, qu'on envoie des écrivains et des musiciens sur le terrain. Les noms de ces artistes sont célèbres. Ils ont commencé leur carrière grâce à ces financements culturels publics durant la Grande Dépression. Ce fut le cas des écrivains Saul Bellow, Nelson Algren, des peintres Mark Rothko ou Jackson Pollock, des photographes Berenice Abbott ou Walker Evans, du dramaturge Arthur Miller, du musicien Aaron Copland ou encore des cinéastes à John Huston, Nicolas Ray ou Joseph Losey, dont la carrière a été lancée au théâtre grâce à Roosevelt avant que Hollywood ne les récupère. Et bien sûr, le nom le plus connu de cet art subventionné reste Orson Welles qui a créé des pièces pour le New Deal. Je pense à un Jules César fasciste, à une version vaudou de Macbeth, et il en a montré aussi les limites en termes d'acceptation politique. Il avait finalement dû démissionner de ses programmes culturels du New Deal. Il n'en reste pas moins que la culture américaine était encore provinciale avant les années 20 et qu'elle sera globale après la guerre, la capitale culturelle du monde passant de Paris à New York. Cet article est à lire sur notre site sous le titre « La Grande Dépression culturelle ». Avec nous par téléphone Michel Guérin, rédacteur en chef du journal Le Monde. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Trois questions avec vous ce soir. D'abord, la commande publique annoncée par Emmanuel Macron mercredi dernier. Ce dispositif reste assez flou. C'est une quelle forme pourrait prendre le New Deal justement d'Emmanuel Macron sur les commandes publiques?
Ben, ce New Deal, en effet, il répond à ce que vous venez de dire sur le New Deal américain. Donc cette grande commande publique a été annoncée le 6 mai par Emmanuel Macron. On ne sait pour l'instant pas grand-chose. Et évidemment, la question centrale, ça va être celle de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que ça va être quoi? 5 millions, 10 millions, 100 millions? Évidemment, tant qu'on ne connaît pas vraiment la somme, on peut difficilement se prononcer. Il est vrai que si c'est important, ça répondra aux vœux de beaucoup de personnalités, Jacques Lang en tête, qui ont justement appelé à une espèce de New Deal culturel pour la France. Alors ce qu'on sait, c'est quoi? C'est le champ d'abord des arts. Macron a dit qu'il fallait aider les métiers d'art, les spectacles vivants, la littérature et les arts plastiques. Bon, je pense que l'essentiel des gens qui le disent, ce sont surtout les auteurs, les écrivains et les artistes plasticiens. Pourquoi ces catégories? Parce que ce sont des activités, des métiers qui ne bénéficient pas pour l'instant de protection pour le chômage, et il n'y a pas, par exemple, l'origine de l'intermittence pour ces métiers. Et d'ailleurs, il y a plusieurs écrivains et des plasticiens qui se sont plaints en disant, ils ont fait une tribune dans Le Monde, ils étaient 400, en disant, nous, on n'a pas ce que, par exemple, les artistes allemands ont, c'est-à-dire plusieurs milliers d'euros, là, directement un chèque, hein, qui leur arrive. Au Canada, ils ont droit à $500 par semaine, pendant 16 semaines. Bon, en France, rien de cela. Et je pense que ce sont ces personnes que Macron veut aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? C'est là où ça fait un peu débat et même polémique. C'est que Macron a dit qu'il faut aider en priorité les moins de 30 ans. Moins de 30 ans, c'est pour une commande publique, qui est un format solennel, hein. La commande publique, en général, elle va aux artistes, je dirais pas en fin de carrière, mais bien
reconnus.
Oui,
reconnus.
Avant 30 ans, il y a déjà beaucoup de choses, hein. Vous avez des bourses, vous avez des prix, vous avez des expositions thématiques, des expositions collectives. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent. Et donc, beaucoup se disent, mais pourquoi catégoriser comme ça? Pourquoi uniquement les moins de 30 ans? C'est un âge où on se cherche. C'est encore un âge où on est en construction. C'est un âge où on n'est pas encore établi. Et donc, est-ce que vraiment c'est le bon âge pour faire ça? Bref, ça fait beaucoup d'interrogations et je pense que ça sera cette aide de commande publique va aller beaucoup, plutôt non pas au ténor, mais ça va être plutôt disséminé en des milliers de personnes pour les aider tout simplement à vivre et à créer.
Alors autre sujet, Michel Guérin, en termes de politique culturelle, celui des librairies confinées pendant près de 2 mois, malgré quelques ventes en ligne ou réservées par téléphone assez marginales malgré tout, des librairies qui ont réouvert ce lundi, sont-elles passées, comment dire, Michel Guérin, à côté de leur chance d'être classées parmi les biens de première nécessité?
Cette notion de culture bien de première nécessité, tout le monde espérait que les librairies allaient la saisir pour donner un signe pour elles, mais aussi pour l'ensemble de la culture. C'est un débat qui a eu lieu en Italie, qui a eu lieu en Espagne, en Allemagne et en France. Et il faut bien reconnaître que à partir du moment où tous les lieux ont fermé, en tout cas à partir de la mi-mars, la culture n'était pas un produit de première nécessité. Donc, il y a eu cette polémique qui a été lancée, en fait, indirectement, il n'a pas voulu, par Bruno Le Maire, quand Bruno Le Maire a dit, seulement sur France Inter, que on pourrait envisager que les librairies ouvrent pendant le confinement. Et à la suite de quoi, le syndicat national de la librairie a fermé la porte, en fait. Mais et qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, la porte, elle, a été ouverte à tout le commerce en ligne, à Amazon, mais aussi aux hypermarchés. Beaucoup d'hypermarchés ont vendu des livres pendant le confinement. À suite de quoi, polémique relancée par Jacques Lang dans un entretien au Monde où il dit que c'était une erreur. Il rappelait que c'était une proposition remarquable, merveilleuse, mais un peu divisée, que même lorsqu'il y avait eu tout le débat autour du prix unique du livre, que tout le monde trouve formidable aujourd'hui, le prix unique du livre, ça a sauvé les librairies, ben même à cette époque-là, en 1981, des librairies étaient contre. Le syndicat national de la librairie, enfin le syndicat de la librairie française a fait un communiqué ensuite pour dire Jacques Lang a tort. Comment on peut oser nous demander d'ouvrir à la mi-mars alors que le gouvernement français a incité tout le monde à rester chez lui et en gros nous envoyer au front pour tout le reste. Bref, ça ne s'est pas fait. Je pense, pour ma part, que c'est une occasion en effet perdue. Quand même, nombre de supérettes, de petits magasins pour acheter à manger sont restés ouverts. Pourquoi on n'a pas... Mais c'est pas la faute des librairies. Pourquoi il n'y a pas eu un espèce d'élan national, en tout cas gouvernemental, pour faire en sorte que les librairies puissent rester ouvertes? Il s'est passé la même chose en Italie, hein. On a proposé, quels sont les premiers commerces culturels qui peuvent ouvrir? Ce sont les librairies. C'est d'ailleurs en France ce qui se passe. Elles sont ouvertes en ce moment. Eh ben, en Italie, elles ont refusé aussi de rouvrir, en avril, quand le gouvernement, fin avril, leur a proposé. Donc, c'est un débat assez large et qui renvoie à quelque chose de plus compliqué encore, de plus douloureux. C'est que la librairie est un métier difficile. C'est un métier qui souffre. Chaque année, il s'enferme.
Deux d'entre elles viennent de fermer à Paris cette semaine, par exemple.
Voilà. Et on leur dit quoi? On leur dit, voilà, vous souffrez, mais là, on a besoin de vous quand tout va mal. C'était, je crois, un discours assez difficile à avaler. Je crois que ça traduit donc un trouble beaucoup plus large. Espérons maintenant, il faut dire aussi quand même, pas mal de librairies sont restées ouvertes un petit peu ouvertes pendant le confinement, par un système ou bien de livraison à domicile. à domicile ou de drive, enfin, etc. On préparait les paquets, mais enfin, je pense que c'était des...
Marginal, ouais. Terminons, Michel Guérin, par une question un peu démographique. On sait que le public de l'opéra, de la musique classique, par exemple, on peut le regretter, mais c'est ce que les chiffres nous expliquent, les chiffres du DEPS, mais aussi d'ailleurs aux États-Unis, ceux du National Endowment for the Arts, un pourcentage très élevé des personnes qui assistent à des opéras, à des concerts de musique classique, sont des personnes âgées, disons. Évidemment, cela pose des problèmes particuliers pour la reprise éventuelle des activités culturelles.
Oui, c'est un sujet un peu tabou et je pense que ça va largement au-delà de l'opéra et de la musique classique. Les livres, par exemple, les gros acheteurs de livres ont plus de 65 ans. Le cinéma est de plus en plus gagné aussi par les gens qui ont plus de 65 ans. Il y a une étude qui s'appelle « Les pratiques culturelles des Français ». Ils en font une tous les 10 ans, donc c'est pas rien. C'est sur un échantillonnage de assez lourd, de plusieurs milliers de personnes. La dernière date, donc, d'il y a 10 ans. Et la prochaine va sortir dans quelques semaines.
Dans quelques semaines, oui.
Et on connaît déjà un peu les éléments. Et le côté senior de la culture, de consommateur de la culture, s'accentue encore. D'être encore plus fort. Donc, en effet, ce public qui a 65 ans et plus, notamment la génération du baby-boom, qui a maintenant entre 65 et 80 ans, pour aller vite, ce public-là est central dans la culture et donc pour son renouveau dans les semaines et les mois qui viennent. Or, le problème, c'est que, vous le savez, c'est que ce public-là, on incite fortement à rester chez lui pour ne pas être malade, essentiellement. Et donc, que va-t-il se passer dans les semaines qui viennent? Est-ce que ce public va revenir? Est-ce qu'on va l'autoriser à revenir? C'est un casse-tête qui va se poser à toutes les institutions culturelles, y compris jusqu'aux monuments. Les monuments historiques aussi sont des lieux essentiellement, à part les touristes, sont des lieux essentiellement visités par les seniors et plutôt boudés par les jeunes. C'est un temps un peu complexe et difficile et paradoxal. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont 65 ans et plus qui ont besoin de la culture réelle, de se confronter à des originaux, aller au spectacle pour voir des musiciens, des chanteurs, le théâtre aussi, le théâtre en direct, et qui est plutôt aura du mal à y aller, en tout cas on ne l'incite pas. Et de l'autre côté, vous avez les jeunes qui sont de plus en plus gagnés par une culture virtuelle, qui eux sont moins touchés par le virus, mais qui ont moins cette appétence pour aller se confronter à l'original. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué.
Merci infiniment Michel Guérin. D'ailleurs, je retiens une expression que vous avez employée récemment dans Le Monde, la slow culture. Est-ce que la frugalité va devenir notre slogan culturel? On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Juste avant de passer au numérique, troisième section de Soft Power ce soir, je vous propose d'écouter Lewis Hoffman, Attitude. Le titre Attitude de cet artiste, un jeune musicien français d'une vingtaine d'années, qui a déjà signé plusieurs collaborations prometteuses, notamment avec Lana Del Rey. La sortie de son second EP se double d'un clip avant-gardiste et décalé réalisé par Julien Soulier, Lewis Hoffman Attitude.
Let's do it.
France Culture, 18h55. Un mot sur la défense de la langue, la défense de notre langue, comme on peut aussi parler de police du langage. Vous allez voir pourquoi. Faut-il dire le Covid ou la Covid? Ou encore, doit-on employer l'expression distanciation sociale? Nos auditeurs ont un avis sur ces sujets, nous les écrivent, hein, y compris à la médiatrice de Radio France, et c'est très bien comme ça. L'Académie française, elle aussi, a un avis. Covid au masculin ou au féminin? Sans se prononcer sur le fond, je crois que ce qui doit nous guider à la radio, notamment public, c'est l'usage. Comme l'a souvent expliqué Alain Rey, le patron du dictionnaire Le Robert, c'est l'usage qui prime, qui compte, et c'est d'ailleurs toujours lui qui gagne. Alors quant à distanciation sociale, le terme social n'est pas limité au rapport de classe, comme le disent à tort ceux qui ne le défendent pas. C'est un sens parmi les quatre que donne, par exemple, ici encore, le Robert. Le social, c'est un terme neutre relatif à un groupe humain et relations entre les personnes. En aucun cas, la distanciation sociale signifie qu'on entend s'isoler des autres classes sociales. L'Académie se trompe, il suffit de consulter le dictionnaire. Sinon, il n'y aurait plus lieu de parler, par exemple, de sciences sociales, de sociologie, ou d'agrégation en sciences sociales. D'ailleurs, certains proposent à la place l'expression « distanciation physique », ce qui est au demeurant une expression que je trouve bien pire. Contrairement au social, le physique n'est pas neutre. C'est souvent un jugement. On juge les gens sur leur physique. Doit-on s'éloigner des personnes pour des raisons physiques? Certainement pas. On s'éloigne d'elles à cause d'un virus pour des raisons sociales, justement. Donc, distanciation sociale, c'est mieux. Et c'est ce que nous employons en général dans cette émission. Un dernier mot ici. On a dit que l'Académie française avait décidé ceci ou cela. La Covid, par exemple. Alors j'ai mené ma petite enquête et j'ai interrogé 5 académiciens. Aucun d'entre eux n'a été invité à donner son avis sur ce sujet par l'Académie française. Certains ont même appris par ma bouche les décisions de leur académie. Aucun vote, alors pas par Zoom évidemment, les académiciens ils n'utilisent pas Zoom, pas par téléphone, pas par courrier, même pas par pigeon voyageur n'a eu lieu. D'ailleurs, aucune réunion tout court n'a eu lieu à l'Académie française depuis le 17 mars. Les positions de l'Académie française ne sont donc pas celles des académiciens, mais bien plus probablement du seul secrétaire perpétuel, qui tient à son titre d'ailleurs au masculin, Hélène Carrère d'Ancos, âgée de 90 ans. Oui, 90 ans. Fort bien connue, justement, pour empêcher la féminisation des titres de profession. La distanciation avec les classes sociales, c'est là, justement, le problème de l'Académie française et ce qui lui fait perdre chaque jour un peu de sa crédibilité. Alors moi, je vous propose une règle assez simple à la radio comme dans la vie. Quand l'Académie française, notre police du langage, propose un choix, eh bien, on fait tout simplement le choix contraire. Jusqu'à présent, avant ou depuis le Covid, cela nous a plutôt permis, au contraire de l'Académie, d'éviter toute distanciation sociale avec nos auditeurs. Emmanuel Paquette, chroniqueur régulier de cette émission, journaliste à L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Géopolitique du cinéma. Alors on a appris qu'un documentaire intitulé Le Dissident a beaucoup de mal à trouver un distributeur. Comment est-ce que cela est possible, Emmanuel?
Oui, alors effectivement, c'est un documentaire qui a été réalisé par Brian Fogel et qui a été présenté à Sundance, au festival de Sundance au mois de janvier dernier. Et après la présentation de ce documentaire, Brian Fogel a dit « Je viens de réaliser que les grands distributeurs du monde d'Hollywood sont effrayés par mon film ». Alors ils sont effrayés par ce film parce que ce documentaire traite de la mort du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, qui en octobre 2018 s'est rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul et qui a été tué dans ce consulat.
Coupé en morceaux même.
Démembré. Mmh. Exactement, puis démembré, exactement. Et donc le documentaire essaye de faire la lumière sur qui a donné l'ordre d'assassiner ce journaliste et pointe du doigt le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, surnommé donc MBS, comme étant le commanditaire de ce meurtre, ce pourquoi l'Arabie Saoudite s'est à plusieurs reprises a dit que ce n'était pas le cas, même si elle a reconnu que des Saoudiens avaient effectivement tué ce journaliste et l'avaient ensuite démembré.
Alors le film a été projeté au festival Sundance, je crois que c'était le 24 janvier, avec succès, mais pas de distributeur donc.
Toujours pas de distributeur, effectivement. Alors, Hollywood craint de se mettre à dos les pétrodollars de l'Arabie Saoudite. Il faut savoir quand même que Mohammed Ben Salman, MBS, donc le prince héritier de l'Arabie Saoudite, essaye de pousser son plan Vision 2030. Alors, ce plan Vision 2030, c'est essayer de moins dépendre du pétrole, qui est en train de se tarir, et de se tourner donc vers d'autres sources économiques, notamment la culture et le divertissement. Et l'Arabie Saoudite prévoit d'investir pas loin de 64 milliards de dollars en ouvrant des salles de cinéma, en investissant dans de la production production et même en ouvrant un parc à thème. Alors pour cela, le prince s'est rendu aux États-Unis en 2018. Il a même rencontré à l'époque Bob Iger, le PDG de Disney, pour voir si ce n'était pas un Disneyland qui allait pouvoir ouvrir ses portes en Arabie Saoudite. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces pétrodollars, ben à Hollywood, on a franchement besoin au lendemain de la crise du coronavirus pour relancer sa production et même rembourser et redonner de l'argent aux salles de cinéma qui souffrent énormément actuellement.
Ça, c'est il reste quand même soft power, on peut le dire ainsi.
Exactement. Il reste quand même la solution des plateformes, en l'occurrence celle d'Apple, d'Amazon et de Netflix. Mais alors là encore, le documentaire quand même traite du piratage du téléphone à un iPhone de Jeff Bezos, le président d'Amazon, sur l'ordre du prince héritier MBS, pour savoir en fait ce qui se préparait au sein du Washington Post, puisque aujourd'hui Jeff Bezos est le propriétaire du Washington Post. Donc on voit bien que Amazon est gêné pour acheter et distribuer ce documentaire puisqu'il y en est un peu partie prenante. Et on voit bien également que Apple a pas trop envie de faire la publicité pour le manque de sécurité de ses téléphones. Donc il reste Netflix, et quand je les ai interrogés, ils me disent qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas acheté les droits de ce documentaire. Et donc Brian Fogel, qui a été quand même oscarisé quand même en 2018 hein, pour son précédent documentaire Icarus, donc qui n'est quand même pas le pire des réalisateurs, n'arrive toujours pas à ce jour à trouver un distributeur.
Alors, autre sujet dans l'actualité, AMC, on le sait pas forcément, mais c'est un des plus importants groupes de salles de cinéma aux États-Unis, pourrait être racheté, par Amazon, comme en témoigne la récente envolée en bourse d'Amazon, une intégration verticale de la filière cinématographique qui pourrait avoir lieu si cette information, notamment diffusée par Bloomberg, est confirmée.
Oui, alors en fait, c'est un journal britannique, le Daily Mail, qui à l'origine a diffusé cette information. Alors il faut savoir qu'AMC, c'est quand même 10 000 écrans aux États-Unis et au Canada, hein, donc effectivement, c'est un énorme acteur, mais qui, comme tous les acteurs des salles de cinéma, a des difficultés aujourd'hui, et qui cherchait quasiment à se mettre sous la protection du Chapter 11 aux États-Unis, donc se mettre quasiment en cessation de paiement pour pouvoir se protéger dans les prochains mois qui viennent après l'épidémie de coronavirus. Pour l'instant, cette rumeur donc de rachat n'a pas été commentée ni par Amazon ni par AMC. On attend les résultats d'AMC qui doivent être publiés d'ici peu pour le premier trimestre, qui risque de ne pas être vraiment glorieux. Et ça interroge aussi les analystes qui se demandent que viendrait faire Amazon là-dedans, puisque aujourd'hui les salles de cinéma aux États-Unis sont en train plutôt de perdre de nombreux spectateurs, comme on le disait précédemment, même si c'est compensé par la hausse du prix du ticket. Donc pourquoi se lancer dans un business qui est plutôt en déclin, avec beaucoup en plus d'emprunts et de dettes à régler au sein d'AMC? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Amazon, lui, pendant cette épidémie de coronavirus, a commencé à racheter des films de cinéma qui ne trouvaient plus de distribution en salle, notamment en France, avec Forte, qui a été produit par TF1 Studio et UGC, et dont Amazon a racheté entièrement les droits pour le diffuser en exclusivité sur Amazon Prime Video. Et puis le deuxième film, c'est le film de Pinocchio de Matteo Garrone, qui n'a pas pu sortir en salle le 18 mars dernier, et Amazon a pu récupérer les droits pour le diffuser en exclusivité sur sa plateforme. Alors il y a beaucoup d'autres négociations en cours. Amazon essaye de racheter comme ça des films, notamment en France, mais pour ça il faut racheter tous les contrats auprès des grandes chaînes de télévision qui ont préacheté ces films pour pouvoir en avoir les droits exclusifs et les diffuser directement sur sa plateforme.
Pendant le confinement, on avait d'ailleurs vu que Netflix avait racheté tout le catalogue de Marin Karmitz, notamment les films de Truffaut et d'autres. Dernier point, Emmanuel, pour terminer brièvement, Facebook en difficulté est condamné à $52 millions pour ne pas avoir protégé suffisamment ses prestataires. Alors, c'est pas les salariés directs, mais des prestataires indirects de la violence des contenus qu'ils étaient censés modérer.
Exactement. Alors, ça concerne un peu plus de 110 000 personnes aux États-Unis qui ont été exposées à des scènes assez violentes. Ça peut être des abus sexuels sur enfants, des viols, des scènes de décapitation, des scènes de suicide et de meurtre. Et donc, Facebook a été attaqué en 2018 pour pas avoir pris les mesures suffisantes afin de protéger ses sous-traitants. Et ils ont décidé finalement de payer $52 millions pour pouvoir prendre des mesures et protéger ces différents modérateurs de syndrome post-traumatique. Alors en moyenne, ça fait $1,000 chacun, hein, donc c'est pas énorme. Ça peut aller bien plus loin que ces $1,000 si la personne justifie d'avoir eu en fait des syndromes extrêmement traumatisants après avoir modéré des contenus violents, et avoir pour le coup des soutiens psychologiques avec des thérapeutes. Donc on voit aujourd'hui que Facebook, qui n'est pas une chaîne de télévision, hein, donc et qui n'a pas de droit et de devoir de modérer modérer ce qui se passe sur sa plateforme, devient quand même responsable d'une certaine façon des contenus qui circulent sur sa plateforme et du fait de modérer et de gérer ses salariés qui n'en sont pas en réalité vis-à-vis de leur santé et de l'exposition face à des images violentes qui circulent sur les réseaux.
Emmanuel Paquet, journaliste à L'Express. Merci Emmanuel, on vous retrouve la semaine prochaine. On se hâte à 19h05, un petit peu en retard dans cette émission. Avec nous maintenant par téléphone Henri Verdier. Bonsoir monsieur, vous êtes ambassadeur de France chargé du numérique.
Bonsoir Frédéric.
Alors l'ambassadeur chargé du numérique s'occupe notamment de diplomatie numérique. Donc on a un ambassadeur qui s'occupe de ça, avec des axes de travail. Je le rappelle rapidement, vous vous occupez de sécurité, notamment le droit dans le cyberespace, ça peut être le terrorisme, les fake news. Vous occupez de la gouvernance d'Internet, notamment des batailles comme celle du .org qui a eu lieu récemment, de diplomatie économique et puis de défense des valeurs françaises. Alors commençons peut-être cet entretien par... le confinement, comment vous l'avez suivi de votre point de vue? Que s'est-il passé durant ce confinement qu'on n'a peut-être pas vu au niveau du grand public en termes par exemple de cyberattaques, de failles de sécurité, d'espionnage ou de batailles entre les États-Unis et la Chine?
Oui, effectivement. Alors, d'abord, ça a été un moment... la diplomatie, comme tout le monde, a vécu le confinement dans sa dimension de personnelle et dans sa dimension sociologique et dans la nécessité d'apprendre à travailler autrement. Les diplomates, quand même, par construction, ça rencontre des gens et ça règle des problèmes dans le dialogue. Donc on a dû, nous aussi, vivre en visio, en téléconférence, en réunion à heure fixe, etc. Et puis, dans le carré que vous avez esquissé de la diplomatie numérique française, qui essaye d'équilibrer de la sécurité, une participation à une bonne gouvernance d'Internet, un peu de promotion quand même de notre attractivité, de notre puissance économique et de la défense de valeurs, ce carré s'est un peu déformé. Il faut quand même voir que dès le début de la crise, on a vu une explosion considérable de cyberattaques. On parle de plus de 600% d'actes malveillants, ce qui a mobilisé de très nombreuses autorités de l'État.
Et comment on explique ça, par exemple? Pourquoi 600% de plus pendant le confinement?
Oui, alors justement, nous d'abord, on s'est demandé quand même s'il y avait des acteurs malicieux étatiques, et on a fait attention et on a vérifié si ça pouvait être aussi des comportements d'État. Certains pays ont crié très vite et très fort que c'était des comportements d'État. En fait, il peut arriver des petites choses, mais globalement, c'est la cybercriminalité qui s'en est donné à cœur joie. Dans un monde où chacun perd un peu ses repères, où chacun bricole des solutions, teste du télétravail, prend son matériel personnel, et puis devient un peu crédule, ouvre des pièces jointes parce qu'on dit c'est le centre de sécurité qui vient de vous dire le nouveau procédure de sécurité, etc. On était vulnérables. Et on a vraiment subi, en France, en Europe et dans le monde entier, une augmentation incroyable des actes illicites.
Est-ce que parmi ceux-ci, il y avait des espionnages étatiques, notamment des laboratoires de vaccins?
Alors, on commence à le dire beaucoup. Je crois que, il suffit de comprendre un peu les relations internationales pour savoir que si tout le monde baisse un peu son niveau de sécurité, tous les services de renseignement du monde essayent d'en profiter. Pas forcément que pour les vaccins. L'espionnage, c'est déjà une deuxième chose. La première chose, c'est la criminalité pure. C'est le ransomware, le gars qui bloque votre disque dur, qui pète votre système, etc.
Et oui, on a assisté aussi à une bataille, ça n'a échappé à personne, de storytelling, de narrative entre les États-Unis et la Chine sur celui qui allait le mieux gérer la crise. Alors là, ça a été le règne des fake news.
Oui, et d'ailleurs, ça a été la deuxième chose qui s'est un peu déformée. Le plus frappant, c'est qu'évidemment, c'est pas surprenant, mais quand on vit un temps comme ça, une pandémie mondiale, un confinement, des expériences intimes et sociales complètement bouleversées, beaucoup de gens disent beaucoup de choses, et dans ces beaucoup de choses, il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a une fable de La Fontaine, le loup et le renard, qui dit qu'on est prompt à croire ce qu'on espère et ce qu'on craint. Donc les gens, il y a eu un seuil de crédulité et donc on a partagé d'abord qu'il fallait manger de l'ail ou de l'eau de Javel pour se protéger du virus.
Non, l'eau de Javel, il fallait la boire, hein, ne vous trompez pas.
Donc,
ça, c'est Donald Trump.
Il y a eu une sorte de montée terrible du niveau de fake news, pour prendre cette expression que je n'aime pas. Et
alors, à l'occasion d'ailleurs, on a perdu la liaison, mais c'est le premier anniversaire ce week-end de l'appel de Christchurch. Ça fait écho à ce qu'on était en train de dire, l'appel d'Emmanuel Macron et de la première ministre de Nouvelle-Zélande à l'occasion du premier anniversaire de l'appel de Christchurch pour mettre fin au contenu terroriste sur le web. Vous êtes revenu en rivière.
Oui, alors ça, ça a sauté.
Voilà, mais vous êtes là, continuons.
Bon.
Alors, je m'adresse, avançons. Je m'adresse maintenant peut-être à l'Observateur, Henri Verdier. Vous êtes ambassadeur de France, je le rappelle, chargé du numérique. Vous êtes aussi, vous avez écrit des ouvrages, un intellectuel du numérique. Qu'est-ce que vous avez observé durant ces 56 jours de confinement? La France, au fond, qu'est-ce qui s'est passé de notre côté sur le numérique?
Ah, je vois qu'on avance vite. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est le bricolage et la bricolabilité. C'est-à-dire que finalement, sous pression, chacun est revenu au niveau de... Vous savez, il y a la fameuse phrase, on se hisse rarement au niveau de ses expectations, on a tendance à tomber au niveau de son entraînement. Chacun est revenu à son niveau d'entraînement. Il n'y a pas une solution qui s'est imposée et on a vu... ça a été particulièrement frappant, je trouve, avec l'éducation nationale. On a vu utiliser Skype, Zoom, Discord, WhatsApp, et c'est vraiment...
Alors même que l'éducation nationale disait qu'il ne fallait pas utiliser ces plateformes, mais faute de mieux, tous les profs ont utilisé ça, bien sûr.
Oui, enfin, on a aussi eu 7 millions de connexions par jour sur les ENT de l'éducation nationale, ce qui était un record historique, et ça a tenu la charge. Mais en fait, on a tout utilisé. Il n'y a pas eu une espèce de plan stratégique. Donc pour moi, c'est un... important parce que il va falloir qu'on apprenne à utiliser dans nos stratégies ce que j'appelle la bricolabilité, le fait qu'il faut des outils humbles, modestes, un peu low-tech, et ceux qui sont familiers et ceux dont on se sert déjà tous les jours, quoi. Ensuite, je sais pas, j'ai entendu la chronique de Zoé tout à l'heure. Oui, je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué autour de la culture. Je connais moins ces questions que vous, mais je suis frappé quand même, vous vous rappelez, en tout début de confinement, la France a eu une sorte de débat collectif sur la question des métiers essentiels et de la réassignation brutale de l'importance des métiers et de la revalorisation nécessaire de métiers qu'on avait un peu maltraités. La culture, d'un certain point de vue, elle arrivait en quatrième ligne dans ce récit qui prenait la forme d'une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Et pourtant, on a baigné dedans à un point incroyable pendant tout ce confinement. À la fois, comme il a été dit là, par l'offre culturelle, à la fois par aussi, moi j'ai trouvé ça important, par la pratique amateur, hein, les gens qui s'y sont mis, qui ont essayé de faire des choses, qui ont fait des orchestres Zoom, et par même quelque chose qui est devenu essentiel à notre manière de vivre le confinement. Il y a eu du récit culturel, un peu de mise en abîme, un peu d'esthétique, un peu de réinterrogation de nos racines. Et pour moi, c'est un deuxième point qui mérite vraiment d'être noté.
Alors, on a remarqué beaucoup d'innovations, 2 mois de visioconférence un peu pour tout le monde, des réseaux d'amitié nouveaux, une résilience au fond de la société grâce au numérique. En même temps, on a l'impression que tout ce dont on parlait tout le temps, les innovations, la blockchain, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on espérait pour inventer au fond et changer le monde, les Fab Labs, les data scientists makers, le web décentralisé, bah, tout ça a disparu comme si ça n'avait pas été au niveau et comme si, dans ces cas-là, on revenait à l'ADN et aux choses de base pour s'en sortir.
Oui, parce que comme je le disais, dans la crise, chacun revient au niveau de sa préparation et pas au niveau de ses aspirations. Là, dans ce que vous dites, il y a 2 choses. D'abord, c'est là qu'on voit... Vous savez, on dit parfois que l'innovation, c'est l'invention sélectionnée par les usages, au sens les us et coutumes. Il s'est joué des choses intéressantes autour du télétravail. Tout le monde a dit, bon, on n'a qu'à se mettre en télétravail. Et puis tout d'un coup, on a découvert que le télétravail, il appelait des rituels, des sécurités, des précautions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après 1 mois de confinement, on a vu beaucoup sur Twitter de gens parler de l'usure du télétravail, de l'épuisement. Et les gens commençaient à se passer des trucs et astuces. Moi, j'en ai appliqué un que j'ai trouvé sur Twitter, qui était de prendre un temps entre le petit déjeuner et la première réunion, qui était une sorte de faux trajet pour changer mentalement d'espace, même si on restait dans sa maison.
Et puis s'habiller, prendre sa douche, ne pas commencer sur Internet comme si on était juste sorti du lit, quoi. Enfin,
voilà,
vraiment.
Ce qu'on voit sur le télétravail, on le voit sur tout le reste. C'est-à-dire que ces choses-là, ça se socialise, ça se ritualise. Ça se civilise, si je puis me permettre, et il ne suffit pas d'avoir l'offre technologique pour immédiatement entrer dans des rapports humains durables.
Alors on a parlé...
Deuxième point, pardon, de ce que vous avez dit, parce que ça me semble très important. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous à moitié raté, c'est-à-dire que le monde des startups, des makers, des fab labs, des innovateurs radicaux, de ce que j'appelais la multitude dans le livre avec Nicolas Collin, a été d'une énergie considérable, mais énergie qui n'a pas vraiment passé l'échelle, au début en tout cas, et que l'État a été d'une résilience considérable, il faut quand même voir ce qu'ont vécu les premières lignes dans l'État, mais justement n'a pas considéré qu'il lui appartenait d'aller chercher l'énergie de la multitude. Et il a fallu de longues semaines avant qu'on considère que peut-être faire levier sur la puissance de création de la société civile, des makers, des start-up, etc., pouvait faire partie d'une stratégie de résilience. Et j'espère que c'est un enseignement qu'on prendra le temps d'approfondir et qu'on comprendra mieux comment l'État peut être quand même la plateforme ou le navire amiral d'une grande flottille, enfin, aller puiser profondément dans cette énergie et permettre à cette énergie d'impacter.
Avec la société civile derrière qui forme masse et qui permet de fonctionner,
parce
d'aller
même,
sur le terrain.
De la pandémie et de l'industriel, je veux dire, on comprend que ce n'est pas des petites réponses ultra-locales seules qui peuvent faire face aux défis qui sont devant nous. Hein.
Alors on a parlé confinement, terminons sur le déconfinement déconnecté, hein, le jour d'après, assez brièvement, Riverdive, et je rappelle que vous êtes ambassadeur de France chargé du numérique. Quelle leçon on peut tirer de cette période inédite et inattendue? Et est-ce qu'au fond, on peut espérer que le coup d'après, la prochaine fois, on s'en sorte mieux?
La première leçon, je crois, c'est qu'il faut tirer les leçons. C'est-à-dire que vraiment, l'exercice de faire le bilan, là, de faire le bilan serein de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce qui aurait pu être meilleur, etc. Justement, cette perception qu'on doit se préparer à passer à des usages dématérialisés, qu'on doit avoir les armes pour aller chercher, et les habitudes et les rapports humains pour aller chercher l'énergie de la société civile, etc. Je pense qu'il faudra de longues semaines ou de longs mois pour en refaire une sorte de doctrine stratégique par défaut, usuelle. On pourrait parler de la transparence aussi, où d'ailleurs la France, avec une longue culture d'open data, a quand même plutôt bien tenu le choc de ce côté-là, publié tous les soirs en open data, de manière très transparente, les données qu'on avait, en disant parfois « désolé, on n'a pas toutes les données, elles arriveront la semaine prochaine », etc. C'est la première leçon. Après, je crois que certains des débats que nous avons vu autour du Covid, parce que oui, nous savons tous, je crois qu'on peut aussi avoir pire. Hein. On peut aussi avoir des virus qui se transfèrent plus ou qui tuent plus. Ou on peut avoir d'autres attaques sur notre résilience qui ne soient pas des virus. Certains de ces débats, ils ont commencé sous pression sous le Covid et ils mériteront d'être menés sereinement dans la durée. Emmanuel Paquette a dit tout à l'heure que les réseaux sociaux n'avaient pas de réelle obligation de modération des contenus. Ça n'est pas complètement vrai, puisqu'il y a quelques jours a été adoptée la loi Avia, qui sera probablement reprise quand arrivera le règlement européen, le Digital Service Act, dans un an ou deux, puisque la loi Fake News, qui a été adoptée il y a 18 mois, fait déjà une obligation de coopération des plateformes pour garantir la sincérité du scrutin en période électorale. Mais là, la réflexion qui s'est jouée sur la manière de réguler j'aime pas l'expression, mais les fake news, la manière d'être sûr en tout cas que la parole institutionnelle, celle qui donne des instructions sanitaires, soit repérée comme telle et puisse être entendue. Ça veut pas dire que c'est la vérité de l'État, mais qu'au moins on sait où elle est et on la trouve. Là, aujourd'hui, on a bricolé sous pression. On peut et on doit aller plus loin. Comment on se crée un espace public de débat serein, neutre peut-être, permettant de l'intelligence collective.
Pour finir, Henri Verdier, est-ce que vous diriez d'un mot, est-ce que le gouvernement algorithmique était prêt? Est-ce que la gouvernance aussi de ce gouvernement algorithmique était prêt pour terminer brièvement?
Oui, je crois qu'on est seulement en train d'y arriver. Moi, j'ai suivi avec intérêt les débats autour de l'application Stop Covid. Et j'ai remarqué que il y a eu beaucoup de choses importantes qui ont été dites dans ces débats. Je pense qu'on les reprendra dans la durée. Mais j'ai été frappé du fait que beaucoup de critiques, il y a eu une vraie réflexion, une vraie prise en compte de la question de la privacy, de la vie privée, de la protection des données personnelles, et là-dessus, la France, on sent, elle est mûre, que ce soit le gouvernement, le Parlement, les critiques, les médias, les gens disent « que faites-vous de nos données personnelles ?» Ça, c'est rentré dans les mœurs. Mais aujourd'hui, dans la lutte contre une pandémie, on peut prendre aussi des mesures qui n'utilisent pas de données personnelles. On peut dire les gens qui ont une température supérieure à ceci ne pourront pas passer cette porte, ou les gens qui ont un poids excessif ne pourront pas passer cette porte, ou je décide que chacun ne peut pas aller à plus de 300 mètres de chez lui. Et la réflexion, et c'est aussi le chemin que prend la puissance du numérique. C'est un chemin qui fait des stats, des big data, des décisions collectives, en fait. Et je ne suis pas, je crois que l'effort que nous avons fait il y a 40 ans en France au moment de la loi informatique et liberté pour protéger la vie privée et les données personnelles, il faut qu'on le fasse pour protéger notre vie collective et les décisions algorithmiques. Et les débats ont été très riches et très denses, mais on voit qu'ils ne sont pas tranchés. Il y a sans doute devant nous un programme, et puisque j'ai rejoint la diplomatie française, ce programme, il faut qu'il soit international, il faut que l'Europe s'accorde et il faut que l'Europe fasse valoir, comme souvent, comme elle a fait avec le RGPD, sa vision dans un cyberespace qui devient un espace d'affrontement de vision du monde. Hein. C'est ce que vous disiez en introduction.
Merci infiniment, Henri Verdier. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de France chargé du numérique. Au fond, on était tous sur le radeau de la Méduse pendant ce confinement, mais on a essayé de ne pas terminer cannibale. France Culture, 19h21.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Et pour terminer cette émission, dernière invitée et chroniqueuse, Sandrine Cassini du journal Le Monde. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Frédéric.
Alors trois sujets ce soir rapidement. Commençons par le déconfinement des télévisions, secteur télévisé qu'on a vu alors parfois avec des invités en plateau, parfois sans invités ou des invités qui n'étaient pas sur le plateau. Quelles conséquences de la crise sur les programmes télévisés et les tournages et enfin sur la programmation, Sandrine?
Écoutez, d'abord, la télévision a beaucoup souffert pendant ce confinement. Tout d'abord, les chaînes privées ont dû subir une chute vertigineuse de leurs recettes, moins 70% en avril pour les chaînes privées. Pour cette année, ça va être terrible pour TF1 M6, dont les recettes vont sûrement baisser de 17 à 20% selon les prévisions. Donc, des conséquences très compliquées. Beaucoup d'émissions ont été de tournages ont été annulés, des émissions se sont tournées depuis chez les animateurs. Donc cette semaine, c'était le déconfinement pour elles aussi, c'est-à-dire que les animateurs ont retrouvé le chemin des plateaux. France Télévisions a relancé ainsi 13 émissions. N'oubliez pas Les Paroles avec Nagui, Vivement Dimanche avec Drucker, Ça commence aujourd'hui. TF1 a relancé Les 12 coups de midi et c'était urgent. Parce que qu'est-ce qu'on a vu pendant ce confinement? C'est-à-dire que l'animateur tout seul chez lui pour une émission de divertissement, faisait pas forcément la joie du téléspectateur. Par exemple, Hanouna, qui avait improvisé Ce soir chez Baba pour remplacer son émission TPMP, finalement a eu un succès assez mitigé. Ses audiences ont été divisées jusqu'à plus que 2. Quand en face, Yann Barthès, qui continuait à officier sur son plateau pour Quotidien sur TMC, a enregistré des records d'audience, 1,2 million de téléspectateurs par certains soirs, c'était très important.
En termes de conséquences sur les programmes à venir, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Les émissions, les tournages reprennent un petit peu, les programmes alors, télévisés vont accueillir à nouveau en plateau des invités, etc.
Alors les tournages reprennent, les émissions reprennent. C'est très compliqué parce que il faut à la fois qu'elles allient, qu'elles continuent à divertir tout en mettant en place des mesures sanitaires. On l'a déjà vu cette semaine, par exemple, N'oubliez pas Les Paroles avec Nagui. On peut pas se passer de public, donc on a fait venir du public, mais ce public portait des masques. Alors certes, c'est des masques colorés, donc c'est pas très visible, mais quand même, le public est clairsemé. On a mis des mannequins bariolés. Donc la télévision n'a pas retrouvé son lustre d'antan. Maintenant, l'enjeu, ça va être de relancer les fictions, parce que les fictions se sont arrêtées et ont pris 6 mois de retard, en gros. Donc les tournages ont recommencé. Plus belle la vie et Ainsi grand soleil, début juin, ce sont les quotidiennes de France Télé. Demain nous appartient de TF1 reprend lundi. Là aussi, la contrainte, ça va être d'allier protection des équipes tout en faisant de la télé qui ressemble à de la télé. Donc, les producteurs ont mis en place des guides de contraintes très, très, très compliqués. Les scènes vont être réécrites, les scénarios vont être revus, les scènes de baiser, les scènes d'amour seront limitées. Bah après, on verra comment ça se passe en réalité. Hein, parce que,
Sujet, Sandrine Cassini, côté média, un mot sur Libération, qui appartient à Altice France, hein, de Patrick Drahi, qui pourrait rejoindre un fonds de dotation, une fondation, un peu sur le modèle de Mediapart, Sandrine Cassini.
Oui, c'est qui va rejoindre un fonds sur le modèle de Mediapart. C'est Patrick Drahi, donc il possède aussi SFR, BFM, RMC, qui l'a annoncé cette semaine. Donc le nom de ce fonds, c'est le fonds de dotation pour une presse indépendante. C'est une nouvelle qui est arrivée de manière complètement inattendue et soudaine. Elle a surpris la rédac qui n'avait pas été prévenue. Donc sur le papier, c'est très beau, c'est pour protéger la presse, c'est un rêve de tous les journaux de ne plus dépendre d'actionnaires, mais cette fois de mécènes. Le journal ne pourra pas être cédé et le fonds ne pourra pas faire de bénéfices. Donc on ne pourra plus dire « Ah là là, l'UP, ce journal qui appartient à l'oligarque Patrick Drahi ». Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, la pratique va être plus compliquée. C'est-à-dire que cette nouvelle a été aussi accueillie avec réserve par les journalistes. Pourquoi ? Parce que Libération, c'est un journal qui était en difficulté financière, qui enregistrait des pertes, encore quasiment 9 millions d'euros en 2018, quelques millions l'année dernière. Il ne devait pas revenir à l'équipe avant l'année prochaine. Et ça, c'était avant la crise du Covid. Donc, la question maintenant, c'est comment cette fondation, si elle n'a plus d'actionnaire derrière, va faire pour subvenir aux besoins de Libération. Alors, Patrick Drahi et Altis ont promis de combler les pertes tant que ce serait nécessaire. Mais qu'est-ce qui va les engager vraiment à le faire? Pourquoi d'ailleurs ont-ils pris cette décision? Ça, c'est pas du tout expliqué. Parce que ce qu'on sait en ce moment, c'est que Patrick Drahi essaie de faire des économies sur son pôle média, mais aussi télécom, car il est effectivement durement touché par la crise. Donc c'est une nouvelle, qui pourrait, on l'espère, qui ne va pas signer la fin de l'hiver, on l'espère.
Puis pour terminer très brièvement, on l'a parfois su, pendant le confinement, mais c'est une information comme ça, mais Vivendi a racheté 10,6, presque 11% du groupe Lagardère. Alors ça ne dira rien à personne peut-être, mais Vivendi c'est Universal Music, c'est Canal+, Dailymotion, Havas, les jeux vidéo Gameloft, le groupe éditorial Editis également. Quant à Hachette, bien sûr c'est Hachette Book Group, l'un des premiers éditeurs au monde. Sandrine Cassini, est-ce que se pose le débat évidemment de la concentration dans le monde de l'édition?
Alors, sur le papier, pour l'instant, non, puisque Vincent Bolloré, qui est le principal actionnaire de Vivendi, dit que c'est qu'un investissement financier, qu'il n'y aura aucun engagement entre Editis et Hachette. En réalité, c'est ce à quoi tout le monde pense, mais jusqu'à présent, les autorités de concurrence ne pouvaient pas permettre un tel rapprochement entre Editis et Hachette, donc les spéculations vont bon train. Sur qu'est-ce que va devenir Hachette, est-ce que Editis ne va pas être cédé, et surtout certains disent maintenant que c'est le Covid, que c'est la crise internationale, que Margrethe Vestager qui était la passionnariat de la concurrence a moins de pouvoir, Vincent Bolloré pourrait en profiter pour rapprocher des maisons et donc avoir une main complète sur l'édition depuis l'édition de livres jusqu'à la distribution, car je rappelle que Vivendi possède aussi les magasins relais.
Merci infiniment Sandrine Cassini, on reviendra dans cette émission sur ces évolutions. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous nos invités et chroniqueurs. On n'a pas eu le temps de revenir sur le Festival de Cannes, sur Tiger King, sur le cinéma et sur Stop Covid. On le fera dimanche prochain dans Soft Power 19, cette émission qui sera jusqu'à l'été consacrée aux conséquences économiques et culturelles et sur le secteur de la culture et des industries créatives. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne, bonne fin de week-end, prenez soin de vous.